parce que les corbeaux, ils ont mangé vos viandes et tout ça. Voilà, mais c'est bien, c'est votre premier matzmaout en Israël et c'est vraiment important. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Comment c'était la tefila au Kotel, vous avez kiffé? Hein? On m'a vu, c'est vrai. Et franchement, on est d'accord qu'après ça, on ne peut pas se dire que bah, tu peux, vas-y, vas-y, je te masque, tu peux passer. Mais Kitsour, après une fila comme ça, j'ai dit à mademoiselle justement qui vient de faire une entrée complètement incognito. Et après ça, tu veux rentrer en France? Hein? Franchement. Franchement! Dave! Top. Top, bien mesdames, sans transition, après Yom HaTzmaout, ça y est, on retourne dans notre étude de la Torah, parce que on a atteint un pic de Kedusha hier, donc maintenant, on continue la Kedusha, c'est pas un pic et on redescend, c'est un pic qui nous permet d'aller encore plus loin. Et donc, on est reparti pour notre Parashat HaShavua. Je vous ai préparé la page, donc vous pouvez pas dire, parce que vous êtes arrivé, je suis arrivé à l'heure, et vous n'êtes pas arrivé à l'heure, donc j'ai eu le temps de vous préparer la page. Hein? Comme ça, t'as plus d'excuses. Ça a l'air? Tav! Alors, les amis, Parashat Acharemot, Kedoshim. Alors, on a une double paracha, évidemment, qui fait qu'on va évidemment pas pouvoir parler de tout, mais on va essayer de parler de sujets qui sont très importants. Ça marche? Yalla, on y go? On se lance? Yalla. Tav! Pour l'honnêteté intellectuelle, sachez que ce cours est filmé. Et que donc le monde entier entendra vos remarques. Et donc, n'ayez pas peur de prendre la parole. C'est-à-dire, ça sera complètement anonyme, je ne dirai pas vos noms. En public. C'est-à-dire? Dav, yalla, on y va. Alors, vous avez la page, on est dans le chapitre Tetzain, c'est-à-dire chapitre 16 du livre de Vaïkra, Parashat Acharemot. Alors, de quoi parle le début de la paracha? On va se concentrer sur le début de la paracha. Qui parle de Seder à Avoda Shel Yom HaKippurim Shel HaKohen HaGadol. D'accord? La paracha de Acharemot nous parle de ce que le Kohen Gadol il devait faire à Kippour au Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est ce qu'on lit d'ailleurs tous les ans à Kippour dans la Kriyat HaTorah de Yom Kippour. D'accord? Et là, il va falloir tout de suite qu'on se pose pas mal de questions. Quel est l'événement, on va dire, je ne sais pas si je peux dire central, mais l'événement le plus saint, le plus kadosh de Yom HaKippourim.
L'événement?
Ouais. Quelle est l'étape à Yom Kippour qui est le top du top de la top? Quand le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh à Kodashim. Alors, si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps, à la fin de notre cours, on verra que, non, il y a une étape encore plus sainte que celle où le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Mais pour l'instant, on va dire que c'est le Kohen Gadol. On t'a quand même vu. Hein. Donc pour l'instant, on va dire que c'est le moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim. D'abord, que les choses soient claires. Combien de fois le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim à Kippour?
Deux.
Alors, une, deux. Qui dit mieux? Allez, vas-y.
Trois.
32. En vrai, il rentre 4 fois dans le Kodesh à Kodashim.
Ah, pour les
4, Arba. Arba Imaot, Shosha Avot, Shenel Fatabrit, Arba Kosot. 4 repas.
4 repas.
Parce que là, tu manges 4 fois.
Arrivé du soir,
chaque arrivée,
et
arrivé
d'après.
Ah, pourquoi 2 fois Arvit? Et le goûter. Et le goûter. Et le goûter. Et le 10h. Et un petit 4h. Tom. Il rentre 4 fois dans le Kodesh à Kodashim. Et il y a donc 4 dimensions qui doivent être élevées. On va essayer de comprendre de quoi on parle. D'accord? C'est quoi ces 4 fois? La première fois, il va faire un sacrifice pour le peuple juif qui s'appelle à part. C'est-à-dire qu'il va sacrifier un bœuf. C'est-à-dire, par, c'est une vache. Garçon, un taureau, un bœuf. C'est-à-dire? Donc c'est à part. Ensuite, il y a une autre fois, c'est une fois qu'il va s'occuper du saïr, du bouc, avec la fameuse histoire du bouc émissaire, saïr la azazel, on y revient dans 2 secondes. Ok? Il y a une troisième fois où il va rentrer avec la Ketoret, les encens. Tu sais, il met les épices comme ça sur les charbons, ça fait une fumée, une bonne odeur de folie. Et la dernière fois, c'est pour aller rechercher les ustensiles qu'il avait utilisés pour mettre la Ketoret, qu'il avait laissé dedans. Et à la fin, il va les rechercher. D'accord ? C'est les quatre fois où il rentre dans le Kodesh à Kodesh. Top. Ma. Alors, je vous propose qu'on y aille. Léat. Évidemment que le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh à Kodashim, ce n'est pas seulement lui qui rentre dans le Kodesh à Kodashim, mais il est notre envoyé. Il est notre envoyé parce que, on a atteint malheureusement un niveau en bas qui fait qu'on n'est pas tous capables de se connecter à Dieu pouf comme ça. On n'est pas tous du niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il rentre quand il veut dans le Kodesh HaKodashim, il parle à Dieu comme il veut, tatata. On n'est pas au niveau. Donc, comme on n'est pas au niveau, ça date pas d'hier, hein, c'est déjà depuis l'époque de Moshe, eh bien, le peuple juif a besoin d'intermédiaires, en l'occurrence, le Kohen Gadol. Ce qui veut dire que le Kohen Gadol, il bosse pas pour lui, il bosse pour nous. On est clair là-dessus. C'est-à-dire ? Et donc, il y a quatre dimensions qui sont atteintes par le Kohen Gadol, mais qui doivent, moi, me servir d'exemple. Jusque-là, on est clair ? Et ces quatre dimensions sont les quatre forces que je dois amener à la sainteté. Il y a quatre dimensions en moi que je peux soit utiliser pour faire le mal, soit utiliser pour faire du parvé, soit utiliser pour faire le bien. Le mal, c'est les averot, tout ce qui est assour. Le parvé, c'est tout ce qui est moutard. Le bien, c'est tout ce qui est mitzvah, kodesh. D'accord ? Ouais ? On est d'accord là-dessus ?
Ouais.
Par exemple, manger du cochon, assour. Boire un café, moutard. Manger de la matzah, le premier soir de Pessah, mitzvah. Évidemment que le assour, ça reste assour. Que le mitzvah, ça reste mitzvah. Tout le boulot, c'est de prendre le café et d'en faire quelque chose de kadosh.
En faisant la bracha.
Par exemple, en faisant la bracha, ou par exemple, mettre toute ma vie intérieure dans le fait que boire ce café-là va me permettre... Bon, moi, j'aime pas le café, donc c'est pas... Je prends le café, mais c'est juste un consensus français qu'on boit du café le matin. Mais perso, je bois pas le café, j'ai jamais réussi à aimer. En tout cas, peut-être vous buvez du café. Ceux qui boivent du café, ils disent que ça les réveille. Très bien. À ce moment-là, si tu arrives à mettre toutes tes intentions bévettes, vraiment, que quand tu bois ce café, c'est pour pouvoir faire des mitzvot toute la journée, alors ton café, il devient kadosh. C'est ça ?
Ouais.
Ok, c'est ça l'idée. Et donc, on va voir quelles sont les quatre évolutions. Alors, la première, c'est à part. Donc, le Kohen Gadol, il va faire un sacrifice d'un bœuf et yallah. Maintenant, mazé, eze koarze. À part le bœuf, ça sert à quoi ? Et ne me dites pas un steak.
À l'époque ?
Ouais.
À tirer les bœufs, à tirer la charrue.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la force d'action. Un bœuf, c'est l'outil principal pour cultiver le champ. Et ben la sorte. Donc, la force d'action dans ce monde, c'est à part. Et c'est une force impulsive ou tranquille ?
Tranquille.
Ah, t'as déjà vu un bœuf ? Ouais, tranquille. T'as déjà vu une vache ?
Ouais, tranquille.
C'est pas la meuf la plus excitée du monde. Hein ? D'accord. D'ailleurs, on a l'habitude de dire de quelqu'un qui fait rien, arrête de faire ta...
vache.
Il y en a qui rajoutent, c'est toi qui l'as dit, il y en a qui même rajoutent grosse. Et j'entends à vos rires que vous le dites souvent. Mais bon, très bien. Quoi qu'il en soit, c'est une force, la plus grande force qu'il y a dans le vivant. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, l'éléphant, c'est plus fort que la vache. Nahon, mais un, non, c'est pas vrai, en Inde, ils utilisent. Ah, il y a fait, c'est ça. C'est-à-dire que la Torah, elle parle, non mais, ça veut dire que oui, en Inde, ils utilisent l'éléphant. Mais la Torah, elle parle pas d'éléphant vraiment. Pourquoi ? Parce que dans l'ambiance dans laquelle vit le peuple juif, il n'y a pas d'éléphant. Ce qui veut dire que la plus grosse force d'action qui est en contact avec Amisraël à ce moment-là, c'est la vache, le bœuf. Donc, à part, c'est la force d'action que j'ai dans ce monde, une force tranquille, mais qui a une potentialité de faire avancer les choses, qui est énorme. Est-ce que dans vos vies, vous avez l'impression que vous avez cette force de pouvoir faire des choses? D'accord ? On a toutes et tous cette force de pouvoir influencer, agir. Voilà, j'ai pris une décision, j'ai un business plan, je le tiens, j'avance. Par exemple, je suis arrivé au début de l'année au Machon Hora, je me suis dit, voilà, on va le faire doucement, doucement. À la fin de l'année, j'aurai fini d'étudier le Tanakh, j'aurai lu tout le Tanakh. Ça va me prendre 1-2 chapitres par jour, je me chauffe. Et c'est une force qui met longtemps à démarrer, et ça va pas de manière impulsive, mais doucement, clair, précis, boum, j'arrive à la fin, j'ai labouré tout le champ, ou alors, de mon point de vue, j'ai réussi, j'ai fini tout le Tanakh. C'est fou, hein. Alors, il y a peut-être même des gens qui se disent, bon, comment il sait qu'en fait, je ne l'ai pas fait? Alors, peut-être que, allez, depuis Yom HaAtzmaout jusqu'à la fin du programme, je m'y mets. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça, c'est la première force. C'est-à-dire, c'est une force qui est facile à dompter. Pourquoi elle est facile à dompter? Parce qu'elle ne me fait pas forcément aller dans le mal. J'ai des capacités à faire des choses. Elles sont pas excitées, elles sont posées. Yalla, à moi de les utiliser. Donc à part Zekal. Ok ? Et chacun d'entre nous, on doit se poser la question, comment j'utilise mes forces ? Parce que j'en ai, c'est même pas un débat. Je le vois bien que j'ai réussi à faire des choses. Depuis que j'ai appris à marcher, je fais des choses. Donc ça, c'est la première dimension, la force d'action dans ce monde. Et puis après, j'ai une autre force. Il y a d'autres forces dans ce monde, et chez moi aussi, qui sont un peu beaucoup plus compliquées à gérer. C'est quoi ces forces beaucoup plus compliquées à gérer ? Alors, pas que l'Yetzerara. La colère. Ah, venez, on va lire. Je vous ai amené le texte. C'est-à-dire, donc on est dans le chapitre Tetzain. Prenez le verset, le verset, le verset, le verset. Iné. Bah, vous savez quoi, on va prendre le début. Vaidaber Hashem el Moshe, achare mot, shene ben Aaron, bekorvatam, lifnei Hashem, vayamutu, vayomer Hashem el Moshe. D'abord, elle a Aaron, achicha, parle à Aaron, va al yavo becholet el kodesh, qui ne viennent pas tout le temps dans le kodesh akodashim, mi bet la pachor, mi bet la parochet, el pena parochet, mi al pena kaporet, zicha, asher al Aaron, velo yamut, ki beanan ere al kaporet, bezot yavo Aaron al kodesh. Donc, comment est-ce que Aaron, il peut rentrer dans le kodesh akodashim? On nous dit, befar ben bakar, le chatat, ve ail le ola. Donc il va devoir faire un sacrifice de par, c'est ce qu'on vient d'expliquer, et un deuxième qui est Aïl. D'accord ? Les Ola. Et là on te dit kotonet bad il ba kodesh il ba shmikhnase bad yol besaro bavnet bad yargor bemitsnefet bad itsnof bigde kodesh hem verachatz bamayim et besaro ulvesham. Et il doit s'habiller d'une manière particulière. Et là je fais une parenthèse. Comme on a l'habitude dans ces cours de faire des digressions. Un jour, j'étais en France et j'ai donné un cours dans une école. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Et c'est possible que je radote. Et je donnais un cours dans une école qui n'avait absolument rien à voir avec le sujet puisqu'on parlait de tout bishvat. Donc autant vous dire que rien à voir. Je ne sais même pas comment on est arrivé à ça. Mais il y a un des élèves qui m'a posé une question par rapport aux clochettes de l'habit du Kohen Gadol à Yom Kippour qui faisait gling gling.
Oui, ils ont dit ça. C'est pas vrai.
Je me rappelle plus comment il est arrivé à ça, parce que vraiment, dans mon souvenir, tout bichouat, j'ai rien amené qui pouvait amener cette association d'idées. Mais enfin bon, il a posé la question et je lui ai dit, regarde, c'est pas le sujet là du cours, je te propose, on en parle après si tu veux. Mais juste sache que c'est des bêtises, c'est jamais arrivé le coup de la clochette, machin.
Ouais,
hein,
on avait parlé.
On a déjà parlé. Et à ce moment-là, il était choqué, et le prof qui était dans la classe, il l'était encore plus. Et là, il s'est arrêté de pas écouter ce que je disais, et il a dit, alors là, ça suffit. Là, je peux pas vous laisser continuer à déblatérer vos inepties. Ça fait une demi-heure que vous parlez là, d'Eretz Israël, des fruits, là, tout ça, le sionisme. Mais là, la Torah, c'est sérieux. On peut pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Il dit, mais non, mais vous dites qu'il n'y avait pas de clochette. Ben oui, il n'y avait pas de clochette. Mais non, ça, c'est, on ne peut pas jouer avec les élèves. La Torah, c'est sérieux. Je dis, d'accord, c'est sérieux, mais si vous voulez, on vérifie. Mais bien sûr, tout le monde sait. Quand tu commences une phrase par tout le monde sait que, ça sent pas bon. Eh, dit, tout le monde sait que à Kippour, le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, et quand il était rachat, eh ben, il mourait. Et comment on savait qu'il mourait ?
On
n'entendait plus les clochettes. Ben non, on n'entendait plus les clochettes pendant longtemps. Parce que dans l'habit du Kohen Gadol, il y a 72 clochettes. Pas Amon Verimon, pas Amon Verimon. C'est-à-dire, à chaque fois, une en forme de clochette, une en forme de grenade, en or, comme ça, de cette taille-là. Que, entre parenthèses, on en a retrouvé une de ces clochettes-là. Un truc de ouf. Là, il n'y a pas longtemps, à Ir David. Bekitsour. Quoi qu'il en soit, quand il marche, ça fait gling-gling. Si pendant une demi-heure, ça gling-gling plus,
il y a un problème.
Il y a un bug.
Il y avait des clochettes ou il n'y avait pas des
clochettes? Ah bah, et quand il va tomber, ça va faire un gros gling.
Bah oui.
Bah ouais.
Votre comment on dit?
Je parle pas la langue des signes.
Bon, c'est sur, vous disputez sur quoi? Sur s'il avait des clochettes ou s'il n'en avait pas?
Je lui ai dit, et moi j'ai dit à l'élève comme ça qui m'a posé une question, je regarde, c'est pas le sujet du cours, mais juste sache que c'est pas vrai, c'est jamais arrivé cette histoire de clochette et de Yom Kippour et tout ça. Je suis pas rentré dans le détail, moi.
Okay.
Et donc il a regardé, tout le monde sait que. Et il y avait la corde, la chaîne, pour le tirer, si jamais c'est ça. Alors, bon, au début j'ai dit au prof, regardez, venez, on en parle après, hein, c'est pas le sujet. Mais vu qu'il était chaud et que ça avait réchauffé toute la classe, qui enfin allait voir de l'action, alors ils ont chauffé. Bon, alors on a commencé. J'ai dit bon, alors vous savez quoi, on va regarder le texte. Et disons que tout ce que vous dites est vrai. Donc on va le sortir avec une corde, enfin avec une chaîne. Parce qu'au début il a dit une chaîne. J'ai dit mais il n'y a pas de chaîne dans le Beth Amikdash. On n'a pas le droit d'amener de l'acier, du fer dans le Beth Amikdash. C'est assourd.
Non, mais c'est...
Alors, c'est une corde.
Ouais, la ceinture, il disait.
La ceinture de quoi?
Ceinture.
Ah, la ceinture du Kohen Gadol. Mais elle traîne pas par terre,
non,
la ceinture du Kohen Gadol.
Je sais pas, c'est ce qu'ils nous ont dit, moi, je sais pas.
Voilà, le pied, le fameux pied. On lui attache un truc au pied. Bon, le problème, c'est qu'on lui attache un truc au pied n'est marqué nulle part dans le Talmud. Dans la Torah, je t'en parle pas, mais dans le Talmud non plus. Par contre, il est, oui, marqué dans le Zohar qu'on va lui accrocher une corde, mais c'est marqué dans le Zohar. Donc, c'est certainement pas une corde.
Vraiment.
Vraiment. Mais disons que c'est une corde. Et disons que il est mort. C'est marqué nulle part qu'il y a déjà eu un Kohen Gadol qui est mort dans le Kodesh HaKodashim. Nulle part. C'est jamais arrivé. Adéraba, il y a marqué dans le Talmud qu'effectivement, à l'époque du Second Temple, la majorité des Kohanim Gdolim à la fin du Second Temple, ils étaient corrompus. Et qu'ils n'étaient pas ce qu'il fallait dans le Kodesh HaKodashim. Selon la Gemara, nous raconte que la punition de leur faute, c'est qu'ils ne terminaient pas leur année. C'est-à-dire, il mourrait dans l'année. C'est-à-dire, il faut à Kippour, punition, il meurt dans l'année. C'est-à-dire que quelle date il meurt pas ?
Eux,
à Kippour.
Mais c'est eux qui fautaient ou c'était l'homme ?
Ouais, ils fautent. Non, eux aussi. Bah, peut-être l'homme Israël aussi, mais eux aussi. Et donc, ils ne terminaient pas l'année, mais donc ils ne meurent pas à Kippour. Le plus tôt qu'on a, c'est un événement dans la Gemara qui nous raconte qu'il y a un des Kohanim Gdolim qui a fauté. Quand il est sorti du Kodesh HaKodashim, il y a un malar qui l'a frappé et il est mort trois jours après. Mais enfin, dans tous les cas. C'est pas à Kippour.
De...
Deuxièmement,
on
lui a attribué une deuxième femme au cas où si.
Au cas où si ? Non, mais pas seulement au cas où si lui il meurt, au cas où elle meurt.
Ah oui,
c'est vrai. Ça n'a rien à voir. C'est la préparation avant. Quoi qu'il en soit, donc non seulement il n'y a pas de corde, mais disons qu'il a une corde et il n'est pas mort, mais disons qu'il est mort. Disons qu'il est mort.
Il peut pas mourir dans le Kodesh HaKodashim.
Disons que Dieu il a envie de le tuer dans le Kodesh HaKodashim. Ça, disons. Ça. On n'a pas besoin de corde. N'importe qui peut aller le tuer. N'importe qui peut aller le sortir une fois qu'il a été tué.
Ah, donc n'importe qui peut rentrer.
Dans le Kodesh HaKodashim, d'où on sait ça.
Parce qu'il y a des gens qui viennent nettoyer, non ?
Déjà, il y a des gens qui viennent nettoyer, ça s'appelle les Lévi'im. Et deuxièmement, marqué dans la Torah.
Lévi'im, il nettoyait
le jour de Kippour ou après Kippour, après Kippour.
Quoi ? Non, normalement, on ne nettoie pas le jour de Kippour. Mais si jamais il y a un mec qui est mort dedans.
C'est ça.
D'ailleurs, on l'apprend ça de quand ? Bah, on l'apprend de la Torah. Quand les deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu, sont morts, dans le Kodesh HaKodashim, eh ben, qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? Et Moshe a donné comme ordre que les cousins de Nadav et Avihu sont venus les chercher.
Donc, tout le monde qui est en train de Kodesh HaKodashim.
Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est mort dans le Kodesh HaKodashim, il s'appelle Met Mitzvah et n'importe qui peut aller les chercher. Attends, Met Mitzvah, ça veut dire que c'est un maître, qu'il n'y a personne d'autre qui peut s'occuper. Il faut que le premier qui est là, il s'en occupe. Agave, devant, même, tu vois un mec mort sur le chemin. Même le Kohen Gadol, il peut s'occuper de l'enterrer. Alors que normalement, il n'a pas le droit d'être en contact avec qui que ce soit qui est mort. Quoi qu'il en soit, et là, il y a un dernier truc, c'est que dans tous les cas, disons qu'il meurt dedans. Disons qu'il a sa corde. Disons que... Comment tu sais qu'il est mort? Les coups des clochettes. Ça, bon, on vient de lire. Il faut juste lire dans la Torah. C'est même pas... Que lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas son habit à clochette. Il a ses habits blancs. Il n'y a pas de clochette dedans.
Mais qui a dit qu'en bas de son habit blanc, il n'y a pas de clochette?
Mais non, parce que dans la paracha de Tetzavé, on a les habits. Ah. On connaît les habits. Okay. Il y a les quatre habits blancs. Et dessus, il a quatre habits avec de l'or. Mais quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il enlève ses habits dorés, mais ses habits blancs. Donc, mal à Assot, il y a des fois des gens qui sont persuadés de plein de choses, alors qu'en vrai, ils font simplement lire dans la Torah. Comme j'ai appris de mes maîtres, qui ont appris de leurs maîtres, un truc révolutionnaire que je vous ai déjà dit, que je vous redis. Si vous voulez savoir ce que la Torah, elle dit d'un sujet, lisez dans la Torah. C'est ça ? Voilà. Oui.
Il rentre que à Kippour.
Le Kohen Gadol, il peut rentrer à Kippour.
Il rentre aussi dans l'année ou que à Kippour.
Et lorsque le roi, il a une question à poser au Urim Vetumim, ça se passe à l'entrée du Kodesh HaKodashim.
Vous avez dit qu'il y avait les enfants de.
Oui.
Des enfants oui. Il y avait plein de monde qui est rentré dans
le. Non, Kodesh. C'est pas plein de monde, c'est les enfants de Aaron HaKohen. C'était pour l'inauguration du Mishkan et ils en sont morts. Ah. C'est ça ? Merci. Top, mais c'était pas à Kippour. Quoi qu'il en soit, donc, de quoi on parle ? Les amis, on continue notre histoire. C'est bon ? Tout va bien ? Yala. Donc on a dit Umet adat bnei Israël ikar shene seirim izim lechatat ve'ail echad le'ola ve'ikriv Aaron et par achatat asher lo ve'chiper ba'ado ba'ad beito. Donc Aaron il a fait son korban du par, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les forces d'action. Et j'ai dit maintenant il y a une deuxième force, venez on y va les filles, est-ce que tout va bien ? J'ai l'impression qu'il y a un grand débat qui se met en place. Ça va aller, Yofi.
J'ai une question.
Oui. Quand c'est pas Kippour, il rentre pas dans le Kodesh HaKodashim. J'ai dit que lorsque le roi, il a une question à poser au Urim Vetumim, tu sais, sur le pectoral, il y a des lettres. Et donc le roi, quand il avait une question pour, pas pour lui, pas j'ai perdu mes clés, mais j'ai une question pour le clan Israël. Est-ce qu'on doit partir en guerre? Est-ce qu'on va être machin? Et je veux la réponse. Eh ben, il va avec le Kohen Gadol, ils ouvrent le rideau du Kodesh HaKodashim, ils rentrent pas dedans, ils sont à l'entrée, mamash, mais ils voient dedans, et là, ils posent la question, et la réponse s'affiche www.orimvetumim.co.il, et là, la réponse s'affiche. C'est-à-dire ? Mais là, il est habillé avec tout son attirail, y compris les clochettes. D'accord ? Quoi qu'il, les amis, il y a une deuxième force. Quelle est cette deuxième force? Et là, ça va être un sujet qu'on connaît bien. Je vous demande de suivre. On va traduire mot par mot. Et vous me dites s'il y a un problème. Vous me dites s'il y a un truc qui est révoltant dans votre foi juive. Non, mais c'est sérieux. Agave, si vous n'êtes pas révolté, vous avez un problème. D'accord? On y va? Yala. Velakar. Et donc, Aaron a pris. Enfin, Aaron, le Kohen Gadol. Velakar et Shnea Seirim, il a pris les deux boucs, Vehemi Dotam Lifne Hashem Petar Oel Moed. Et il les a mis devant l'entrée du Kodesh, pas du Kodesh HaKodashim, mais du Kodesh, c'est-à-dire avant de rentrer dans le bâtiment, Mi Petar Oel Moed. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, regardez. Venatan Aaron al Shnea Seirim Goralot. Et Aaron a tiré au sort les deux boucs. Il y a deux boucs et il y a deux choses à faire. Donc, qui va aller là et qui va aller là? Tire au sort. On tire au sort. Il y avait une boîte qui s'appelle la Calfi. C'est pour ça que nous, quand on va aller voter le bureau de vote, ça s'appelle le Calfi. Quoi qu'il en soit, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut décider lequel il va là et lequel il va là. On fait plouf plouf.
Où est là?
Goralot.
Ici, un verger.
Pourquoi? Le Goral, c'est...
C'est vers le Goral.
Goral.
Il y avait deux bouts qui devaient faire deux choses différentes. Donc,
lui ou lui fait quoi? Bah non, les deux bouts qui sont les mêmes, hein. Ils sont les mêmes, ils ont le même âge, ils ont grandi ensemble, machin. Lequel il va là, lequel il va là. Maintenant, je veux que vous soyez choqués. Vous êtes prêts à être choqués?
Ouais.
Attention, c'est parti. La choquage, c'est maintenant. La choquage, c'est maintenant. Attention. Donc, Venatan Aaron al Shnei Aseirim Goralot, Goral Echad la Shem, ve Goral Echad la Azazel. Allez, choquez-vous. Choquez-vous. Allez, soyez choqués. Vous êtes choqués, Nahon ? Ce goral-là pour Dieu et ce goral-là pour Azazel. Allez, vous êtes. L'opchané, l'okhachouv. L'okhachouv pour l'instant. C'est pas important de savoir ce que c'est Azazel, tu sauras dans 5 minutes. Mais là, je veux que tu sois choqué. Ce sort, c'est un tirage au sort, quoi. Donc, ce choix-là pour celui-là, ce choix-là pour celui-là.
Mais sauf que le truc,
c'est HM qui décide
de l'homme jamais.
Genre les deux,
l'homme jamais.
Bah
comment ça?
Bah non,
ils avaient
juste besoin d'un
bœuf. Non, ils en ont besoin de deux. Les deux, ils vont remplir un rôle.
Non, mais d'accord,
c'est pas
savoir ce que c'est
les
Azazel. Parce que si c'était
stable,
genre
en mode. C'est pas encore important de savoir ce que c'est Azazel. Tu sauras dans deux secondes.
Il a pas dit je suis là et l'autre, je prends les. Je crois qu'il a laissé tirer au sort. C'est les mêmes.
Pourquoi pas? Et si Dieu il a envie de se dévoiler par le sort, par le hasard, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut, Dieu. C'est pas ça le problème.
C'est qu'il a voilà. Partagé le Goral.
Non.
Et... c'est parce qu'il y en a un précis pour HM et l'autre pour un autre truc
HM. Et a fait Todaraba. Todaraba, on s'en fout de savoir ce que c'est Azazel. On met sur le même plan Dieu et quelque chose d'autre. Comme s'il y avait ici une dualité de Dieu. Il y a Hachem, et face à lui, il y a Azazel.
Oui, parce que tu as expliqué nous, on ne sait pas ce que c'est le meilleur.
Mais Chanet, t'es en train de... On ne sait pas qu'est-ce que c'est le meilleur. Je ne sais pas, dans le judaïsme, on admet qu'il y a combien de dieux?
Quoi?
Non, peut-être c'est un nom en hébreu d'un nom d'Hachem.
Ah bah non, puisqu'on te dit qu'il y en a un qui va pour Hachem, et il y en a pour autre. Allô? Toi, tu me dis, on ne sait pas lequel est le meilleur. Mais on s'en fout. T'es en train de me dire, il y a deux dieux. Il y a Hachem, il y en a un autre, il est un peu moins
meilleur
bien.
Pour mais... Dieu, je parle.
Ah, mais il y a marqué un pour Dieu et un pour Flouf.
Non, peut-être que...
On s'en fout, c'est quatre pierres.
Mais on s'en fout, t'es en train de me mettre Flouf au même niveau que Dieu. Il y a Dieu et Flouf. Allô? Dans le judaïsme, il y a Dieu, tout court. Il y a des gens qui ont voulu dire, pour régler ce problème, vous comprenez le problème ou pas? Oui. Qu'on là, met sur le même plan Azazel. T'es pas d'accord?
Si, mais pas problème.
Ah, mais si, mais bon, c'est pas grave. La dualité, pourquoi pas, d'avoir deux divinités. Mais c'est pas pour HM, t'as pas compris. C'est pas, c'est quel meilleur pour HM. Dieu nous dit d'envoyer un séir qui sera pour Dieu et un autre pour autre chose. Même si c'est moins bien, tu me mets sur le même plan le sacrifice qu'on fait à Dieu. Et qu'on fait à autre chose, comme s'il y avait un alter ego à Dieu.
C'est HM qui nous dit ça.
Alors ça, on va y revenir, c'est HM qui nous dit ça. Mais d'abord, c'est moi, ce qui me dérange, c'est Dieu et autre chose.
Et finalement, c'est pour le même.
Ouais, mais si HM lui-même, il dit ça et ça, c'est qu'il n'y a pas de dualité. Enfin, c'est lui qui ordonne ça.
Donc comme c'est HM qui ordonne ça, alors ça passe au niveau de la dualité.
Ah oui.
Bah, est-ce que vous êtes d'accord que de mettre quelque chose sur le même plan que Dieu, c'est un problème?
Oui, mais là, c'est HM qui...
D'accord, je renie pas, je vais venir dans ce que tu dis dans deux secondes. Mais d'abord, est-ce que... Hein? Tu connais pas d'autres religions qui mettent plusieurs dieux?
Si, je
sais. Et à l'époque de la Torah, toutes les idolâtries, elles sont avec plusieurs dieux. Ouais?
Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est un nom, genre...
C'est... Dans deux secondes, on va voir ce que c'est. Mais même si tu sais pas encore ce que c'est, dans le verset, bah, tu mets Azazel sur le même plan que Dieu. Et ça, c'est un problème.
Mais c'est HM qui le dit.
Alors, ça fait trois fois que tu reviens là-dessus. T'as raison, c'est HM qui nous le dit, et c'est ça qui nous permet de dire, ok, comme c'est HM qui donne l'ordre, vous arrêtez de parler en signe. Soit vous avez un truc à dire et vous le dites, soit vous n'avez pas de signe à faire. C'est-à-dire donc, t'as raison, c'est Dieu qui nous a ordonné de donner à Azazel. Ce qui fait que non, c'est pas un dualisme. Mais c'est quoi alors Azazel? Et c'est quoi le Seir? On a dit la première force, c'était le Par. La force d'action, mais une force tranquille. Mazé Seir. En français, c'est un bouc. Bouc, c'est un animal proche d'une chèvre.
Ah oui, ok.
Ok. Maintenant, deux secondes. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Soer.
Soer?
Ouais.
Allez, Israël.
Non. Saïr, ça vient de...
Sayar, c'est un
peu... Non, non, pas de Sayar. Soer.
Sar.
Non, pas Sehar. Avec un... Ouais. Sa mère. Et... Enfin, c'est le cocachou. Le pose un signe. C'est le cocachou. Saïr, Soarim, les forces qui sont... Ouah! Excitées, brutes, complètement... incontrôlable. C'est soer. Quand tu dis je suis complètement énervé, anis soer.
Donc c'est une mauvaise force.
Donc il y a des forces dans l'homme qui sont des forces tranquilles. C'est le bœuf. Mais on a aussi des forces seirim. Nervosité. Vous connaissez les gens nerveux?
Oui. Ouais.
Ça existe?
Ouais.
Pas ici évidemment, mais.
Pas ici, jamais.
Est-ce qu'il peut y avoir des forces impulsives? L'impulsivité, ça existe? D'accord. Achav, cette impulsivité. Est-ce qu'elle est plus facile ou moins facile à gérer que la force tranquille?
Elle est beaucoup moins facile.
Beaucoup moins facile. Est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte?
Plus forte.
Non, elle est moins forte. C'est-à-dire que tu peux faire des choses moins puissantes quand c'est une impulsion que quand c'est quelque chose qui est...
Oui, l'impulsion, elle est, mais elle est plus forte. Tu peux être impuissant.
Non, mais elle est plus forte.
Non, ça, j'ai pas dit. Je parle pas de ça. Ça, on a dit. Est-ce que c'est plus facile ou moins facile à gérer? On est d'accord. C'est moins facile à gérer. Mais est-ce que tu peux réaliser plus de choses avec de l'impulsivité qu'avec un truc bien déterminé, bien réfléchi, préparé sur le long terme? Non, on est d'accord. Le par, il est plus fort que le bouc. Le bœuf, il est plus fort que le bouc. Mais il y a des forces qui enclenchent des trucs. L'impulsivité. Ces forces-là, ben, elles peuvent être soit bonnes, soit négatives. Elles peuvent m'emmener... Ben, des fois... j'ai peur, de, si je suis trop réfléchi,
en plus, dans la Torah,
je fais pas. Mais des fois, il faut y aller. Par exemple, si tu es trop réfléchi,
en fait, ça veut dire... pas, forcément mal,
pas forcément nerveux, c'est, yala, on y va, on le fait, on le fait. C'est pas irréfléchi, mais c'est pas uniquement basé là-dessus. C'est basé aussi sur une impulsion profonde. Une pulsion profonde. Par exemple, si tu es complètement réfléchi, tu crées pas l'État d'Israël en 48. On a expliqué la semaine dernière. Mais il y a un truc qui te pousse. Il y a là, on le fait. Et après, tu réfléchis comment on le fait. Ça a l'air? Donc, il y a des forces qui sont az.
Az. Prendre les devants, genre, ça permet.
Prendre les devants. Il y a là, on y va. Az, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire
alors,
impétueux. Genre, il y a là. Azazel. Azazel, c'est les forces brutes. Il y a ces forces-là dans le monde. Et dans l'homme également. La question est de savoir, est-ce que je vais les laisser
prendre
le dessus sur moi et être un mec qui fait n'importe quoi? Ou est-ce que je les contrôle et j'ai pas peur d'elles? C'est pour ça qu'on te dit, à Seir, il y en a deux. Il y a le Yetzera Tov, il y a le Yetzera. Si je laisse le contrôle au Yetzera,
Azazel,
si je prends le contrôle, j'ai pas peur de lui et j'en fais un partenaire.
Ça ressemble à un mot en hébreu qui est pas bien aussi. Les,
Quoi? Ça vient de ça, hein? L'Ech la Azazel. C'est ça? Ça vient de là?
Oui.
Ça vient? Mais non, Azazel, concrètement, c'est un endroit dans le désert à 12 km de Jérusalem où en fait on balançait le bouc du haut de la falaise. C'était pas un corban. On amenait le bouc, on le balançait du haut de la falaise et il se découpillait en morceaux, oh, il s'écrasait par terre. Moche. Moche.
Pourquoi?
C'est les forces comme ça, brutes.
C'est les impulsions.
Les impulsions négatives. Eh bien, ouais, le pauvre, le bouc. Mais en même temps, il sert à Kadosh Baruch Hu comme ça. Comment? Parce qu'en faisant ça, je vais donner à manger à ces forces-là. J'ai pas peur d'elles. Mais il y a de la violence dans le monde.
J'aurais pu ne pas le faire physiquement.
Ah, j'aurais pu ne pas le faire, j'aurais pu le faire que de manière purement intellectuelle. Non, t'as besoin d'avoir ça. Et les amis, que les choses soient bien claires.
Tu peux balancer à des kilomètres.
Il n'y a que le Cohen qui le fait. Alors justement, l'autre, L'autre Saïr, on l'amène au Beth Amikdash, on fait un Corban.
Il est content.
Maintenant, c'est pour ça qu'on fait un tirage au sort. Non, t'as raison, il est content l'animal. Le Midrash, il dit même que les deux Seirim, ils sont vénères. Enfin, l'autre. Il dit, attends, c'est pas juste. On est, mon frère et moi, on a grandi ensemble. Lui, il va être Corban Lachem, et moi, je vais être la Azazel.
C'est vrai.
Après, peut-être, m'en dirais.
De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il est servi par ton frère, il est servi par toi aussi. C'est deux forces différentes.
J'ai pas compris un truc.
Ouais.
Même si bah, ça, ça,
c'est-à-dire, pourquoi c'est pour Hachem ? Parce que qui a donné l'ordre de donner le Seir à Hachem ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un verset dans Michelet qui nous dit « Imra'ev sona'acha achileu lechem » Si ton ennemi est affamé, nourris-le. Comment ça, nourris-le ? Laisse-le pourrir. Non, nourris-le. C'est ton ennemi. Si c'est toi qui le nourris maintenant...
C'est toi qui le contrôle.
Qui le contrôle. C'est toi qui le contrôle. T'as plus peur de lui. Et là, attention les filles, on va parler d'un truc que le YouTube game va exploser. Ouais.
J'ai pas compris quel intérêt de faire un Goral alors que
c'est... Justement, en toi, tu as ces deux forces-là. Elles sont les mêmes. Elles vont t'entraîner à faire ça ou ça, Nachon. Zé Goral. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être lui. Zé Lo Khashuv. Quel Seir. Il va devenir Azazel, il va devenir pour Hachem.
Donc si ça n'a pas d'importance, encore plus pour moi.
Non, pour que tu saches que Zélom Chané, parce que les deux, t'en as besoin. Okay. Seulement, tu dois les maîtriser. Par exemple, oui, madame.
En fait, je ne comprends pas, parce que je me dis, si on fait un acquis, ils vont nous
prendre le bas pour les autres jours. Ah, pourquoi je ne fais pas pour les autres jours ? Parce que pas trop. Ça veut dire que, oui, je vais nourrir mon ennemi, mais il ne faudrait pas non plus que j'en fasse un truc trop puissant. Donc je lui donne des forces une fois par an. Pourquoi quoi ? Ah bah parce que Yom Kippour, c'est le moment où l'unité du Créateur est justement mise en avant. L'unité du Créateur, je rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et donc c'est là, fort de cette unité-là, que je peux élever également ces forces-là. D'abord, il n'y a pas de force négative de Hachem. Il y a des forces négatives chez moi. Mais je les connecte à la volonté de Dieu. Maintenant, je ne vais pas les nourrir tous les jours parce qu'il ne faudrait pas qu'ils prennent trop de puissance, pas trop de place chez moi. Il ne faudrait pas que tout le temps je pense à Azazel, Azazel, Azazel. Non, une fois par an. Je te donne un autre exemple. Et ça, c'est le YouTube game qui va exploser. Dans la halakha, il y a marqué noir sur blanc, dans le Shulchan Aruch, que Baim Acharonim Chova. D'accord ? Vous connaissez Maïm Acharonim ?
Ouais, c'est un tour de 4.
Alors, on fait un 4, on fait quoi ? On fait quoi ?
On se lave les...
On se lave les mains. On se lave les mains, on va au lavabo, et on se lave les mains, savon, tout ça, machin.
Non, avec l'eau, on fait...
Je vous demande.
Non.
Il y a quelqu'un qui fait Maïm Acharonim ?
Ouais.
Alors, je te demande. Tu vas, tu prends un Kelly, tu te fais comme il faut.
Non, je prends les premières phalanges. Juste la pointe des doigts.
Ouais, la pointe des doigts, tu mets là, et après tu fais.
Est-ce que tout le monde fait Maïm Acharonim ?
Non,
monsieur. Moi, de temps en temps.
Mais c'est Chova. C'est marqué dans le Shulchan Aruch ?
Des rabbins.
Alors, regardez de quoi on parle. Oubliez ? Regardez, donc, on regarde de quoi on parle. Maïm Acharonim, ça s'appelle les eaux Maïm.
Non,
les dernières.
Dernière.
Les dernières eaux. Si on dit les dernières eaux, c'est qu'il y en a eu des premières. C'est quoi les Maïm Rishonim ? Netilat.
Ah, mais ça va endormir.
À quoi
ça va endormir.
Bah, si on fait ça le matin.
Après le moti, quand tu fais les petits.
Là, on parle du manger. On parle du manger.
Oui, non, mais ok, mais de
quoi ? Azov dormir.
Quel rapport c'est les dernières eaux ?
Il y a, dans le début du repas, il y a des Maïm Rishonim. Tu vas faire Netilat. Et il y a à la fin du repas, Maïm Acharonim. Attends, Azov le travail matériel. Deux secondes. Maïm Rishonim, début du repas, Netilat. Maïm Acharonim, fin du repas. Jusque-là, on est d'accord ? Yofi. À quoi ça sert les Maïm Rishonim ? Ça sert à se laver les mains. Non, ça sert à se laver les mains. Non, ça sert à être propre. C'est-à-dire, Alpia Kabbalah.
Mais si on fait un set,
tu vas faire trois fois parce que tu veux aussi avoir une dimension de pureté et d'impureté. Mais normalement, d'après la halakha, tu fais combien de fois ?
Une fois.
Une fois. Une fois, à condition d'avoir assez dans ton cli. Révite. D'accord ? Mais un, deux, c'est où ?
La bracha, c'est pour...
Alpia Kabbalah ! En fait, Alpia Halakha. Il y en a qui ont dit, comme il n'y a pas sûr que tu en aies assez dans ton verre, tu fais deux fois. Mais c'est uniquement parce que tu n'as pas un cli. Dans nos clis à nous, le gros machin, hein, ça suffit. Alpia Kabbalah, tu vas faire une troisième fois pour autre chose. D'accord ? Mais c'est pas obligatoire. Après, donc ça, tu t'es lavé les mains. T'as mangé, tu étais bien. Maintenant, t'as mangé avec quoi ?
La prière.
J'ai pas de prière.
Tes doigts.
Avec tes doigts. Parce que à l'époque, il n'y a pas de fourchette.
Bah, le pain, aujourd'hui, on prend avec les doigts.
Mais là, c'est pas que le pain, c'est tout. Attends deux secondes. La viande à l'époque, elle a pas de frigo. Donc on met dans du sel, du gros sel comme ça, pour la conserver. Donc quand tu manges, t'en as plein les doigts. Et une fois que t'as fini de manger, que t'as bien, que t'as le ventre qui fait mal, en général, tu as aussi un moment de bâillement à la fin du repas. Et donc peut-être tu vas être tendance à faire comme ça. Très dangereux parce que tes mains sont pleines de sel très corrosif et donc tu peux faire comme ça et te rendre aveugle. Résultat des courses, juste à la fin du repas, tu fais maïm acharonim pour t'enlever le sel des mains. Donc combien d'eau il faut mettre?
Juste à prendre des doigts.
Beaucoup. Beaucoup pour se laver les mains.
Ah, donc se laver vraiment les mains quoi.
Ben ouais, se laver les mains. Comme tu t'es lavé les mains au début du repas dans maïm rishonim, tu te laves les mains dans maïm acharonim. Vous me suivez?
Ouais.
Ok.
Comment on fait aujourd'hui?
Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui on fait gna 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 gna?
Ça rappelle quoi?
Parce qu'aujourd'hui, Toda Rabba, ça n'a plus rien à voir avec ça. Parce qu'aujourd'hui, les filles à Al-Kha, on ne se lave plus les mains à la fin du repas. On ne fait plus maïm acharonim aujourd'hui à Al-Pia Al-Kha. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des frigos, il y a des fourchettes. Et qu'on n'est pas sale. Alors pourquoi est-ce que il n'y a plus de danger? Il n'y a plus de danger du mélars domite. Alors pourquoi on fait maïm acharonim?
Ah, ça oh, fait...
Non, à l'époque du Shulchan Aruch, chova, pour des raisons de sécurité. Et donc les gens aujourd'hui ils te rebalancent la phrase du Shulchan Aruch. Maïm acharonim chova. Aval, aujourd'hui ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est quoi? Ça ne va pas t'enlever le sel de faire comme ça. Et là, Alpia Kabbalah. Et qu'est-ce qu'on fait Alpia Kabbalah? Eh bien, les forces, les clipotes, les forces, on va dire, problématiques qu'il peut y avoir dans l'homme, l'endroit où elles sont insérées chez toi, c'est sous les ongles. C'est au bout des doigts. Pourquoi au bout des doigts? Parce que c'est les extrémités qui vont faire le lien entre toi et l'action que tu vas avoir dans le monde. C'est avec tes mains que tu agis. On est d'accord? Et donc, là se trouvent les clipotes à Touma. Eh bien, on va te dire, Alpia Kabbalah, tu vas leur donner à manger toi, à ces clipotes. Mais attention, pas trop d'eau. Un tout petit peu. Comme ça, tu vas les nourrir, mais tu ne vas pas non plus en faire des trucs énormes. Tu les nourris, tu les maîtrises. Tu n'as pas peur d'elles. C'est comme le Sahir l'Azazel. Une fois par an, Sahir l'Azazel, toi, à la fin du repas, alors que toutes les autres kohotes, tu leur as donné du poulet, du canard, du truc, des... Là, ces dernières kohotes-là, tu leur donnes un petit truc. Histoire de dire, j'ai pas peur de vous, c'est pas vous qui me contrôlez, c'est moi qui vous contrôle. Et vous pouvez devenir partenaire maintenant.
Donc en fait, il faut faire maïmacharoni.
Alpia Kabbalah. Si tu aimes Koubal, tu fais maïmacharoni.
Bah, c'est parti.
Mais pourquoi dans la... Ah, bah, c'est...
Quoi? Ok. Notre? Ouais, notre Azazel à nous intérieur, il est là. Enfin, il se... Il est là. Mais il se réalise avec les actions que je vais faire dans ce monde. Et les actions, c'est avec les mains.
Il y en a, ils font brûler les ongles.
Non, oui, c'est un peu en lien avec ça. C'est que les clipotes à tout mal sont là-bas. Ok?
Ça va appeler ça ce qu'il y a.
Ah, mais c'est pour ça que. Mais c'est pour ça que. Tu as raison. Je vais faire plein d'actions qui ne sont pas négatives. C'est pour ça que c'est pas Alpia Halakha. Alpia Halakha, on t'a dit, tu prends tes mains pour faire des actions et puis voilà, tu fais des actions. Koltov. Alpia Kabbalah. Si tu es consciente de ces forces intérieures qui pourraient te faire vriller, apprends à les dominer. Ok? Donc ça, c'est la deuxième force. Le premier, c'est par les forces tranquilles. pas de problème pour la gérer, celle-là. La deuxième, saïr, l'impulsivité que tu dois être capable de gérer pour l'amener à être un partenaire à toi. On est bon là-dessus ? Ok, troisième force, le Kohen Gadol, il rentre et il amène la Ketoret. Maza Ketoret, les encens. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le... Enfin, comment je vais dire ça ? Quel est l'organe qui ressent...
L'odorat.
C'est l'odorat, on est d'accord, c'est le nez. L'odorat est l'élément le plus spirituel de l'homme. Puisque l'odorat, c'est le seul truc qui n'est absolument pas matériel. Quand tu ressens quelque chose, tu vois rien, tu touches rien, c'est quelque chose qui est... Ah bah carrément. C'est quelque chose qui est du domaine... Tu vois, on parle du nez. Hein ? C'est quelque chose qui est complètement du domaine de la spiritualité. C'est pas concret dans ce monde. Alors oui, aujourd'hui, scientifiquement parlant, on va te dire que il y a oui des phéromones, il y a oui des capteurs, il y a oui des choses qui vont arriver dans l'odorat. Mais c'est d'ailleurs. Mais au niveau, si t'as pas de microscope ou si t'as pas de moyens de technologie élaborée.
Quand on sent un fruit, par exemple.
Quand tu sens un fruit, d'où ça vient ?
Du fruit.
Oui, mais je vois rien.
Non. Et pareil pour l'odeur.
Alors que quand j'ai croqué,
ouais, c'est vrai,
là il se passe un truc.
Pour Louis.
Pareil pour
Louis.
Ah ben non, j'ai vu l'autre parler.
Non, si on ferme les yeux, tu entends.
Ah, t'as raison. Si je ferme les yeux, je t'entends. Mais a priori, l'homme, il voit.
Ah, ok, j'ai
compris. Ok, je vois la personne me parler. Je vois la chose qui a fait du bruit.
Okay,
alors que le réar, il s'est rien passé.
Bah, je peux manger.
T'as raison que Louis, c'est plus spirituel que la vue. Qui elle-même est plus spirituelle que le toucher.
Mais je peux manger un fruit.
Quand tu manges un fruit, t'as le goût.
Oui, mais t'as aussi. Tu peux sentir l'odeur avant de.
Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Le goût que tu goûtes, il est complètement matériel.
C'est bien.
Il y a des récepteurs dans le palais et t'as croqué ta pomme, il s'est passé un truc concret.
Action.
Alors que. Il est encore sur l'arbre, il n'est pas sur l'arbre. Il ne s'est rien passé en fait.
Après, ce qu'elle dit, vous avez dit non quand elle entend.
Non, j'ai pas dit non.
Ah.
J'ai dit chaque sens. S'élève. Je dis juste que le réar, c'est le plus spirituel. Je dis pas que Louis, c'est pas le plus matériel, c'est le toucher.
Oui.
Après, le goût. Après, la vue. Après, Louis. Et le top du top, c'est le réar. Okay. D'accord ? Donc, la ketoret, c'est un réar. D'ailleurs, ça brouille les autres sens. Puisque tu mets la ketoret sur les charbons, ça fait une énorme fumée.
Ouais.
Tu vois rien. Tu es que dans le réar. Et là, j'ai le nez bouché, donc ça ne marchera pas. Donc, en fait, c'est quoi l'histoire ?
On a le nez bouché, ça veut dire que j'ai...
Non, ça veut dire que tu n'as pas mis un manteau. J'ai chopé le nez bouché à Yom HaTzmaout le soir. Et voilà. Et il faisait un petit peu frisqué. J'ai pas pris rien du tout. Tant pis pour moi, j'ai le nez bouché. Ça a l'air à Colton. Bekitsour, il ne faut pas avoir des trucs spirituels partout. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? J'ai mis la main dans l'eau et tout d'un coup, j'ai senti une sensation d'humidité sur mon bras. Est-ce que ça veut dire quelque chose au niveau spirituel ? C'est-à-dire, Bekitsour, la troisième force, c'est la force spirituelle. Aketoret ! Shalom !
Nous serons obligés de ne pas rester dehors.
Shalom !
Comment vas-tu ? Ça fait une éternité.
Bah oui.
Ça fait une éternité.
Il y a eu des vacances.
Ouais, il y a eu des vacances, c'est vrai. Et après, on t'a pas vu.
Pourquoi ?
Je sais pas.
Et la semaine dernière, on nous avait fait l'après-midi.
Ah, c'est vrai, j'ai fait l'après-midi.
Ouais.
Il y a la chaise là-bas, non ?
Et d'ailleurs, tu étais heureux de les voir à l'heure.
Ouais, c'est vrai.
Elles n'étaient pas à l'heure. Tu as ressenti ce que moi je ressens le jeudi matin à 9h.
Viens, on n'évoque pas un sujet douloureux.
Voilà.
On commence pas la journée avec.
Voilà. Donc on a terminé. Hein. On a terminé.
Bon,
on est sur notre dernier point.
D'accord.
Puisqu'on parle des quatre.
Ouais, excuse-moi de te déranger. Tiens, vas-y, donne-moi mon pied. Merci beaucoup. Ouais, je t'écoute.
On parle des quatre dimensions
Qu'on
doit se. On doit apprendre à maîtriser,
à corriger,
à gérer.
Ouais.
Comme le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim quatre fois à Yom Kippour.
Et
donc on a dit, il y a des kohot qui sont des kohot, la force tranquille, la part.
Il a fait merde.
Les kohot impulsives,
ça c'est les
Seir la Azazel. Ensuite, les kochot, les forces spirituelles de la ketoret. Et enfin, une fois que c'est bon, tu as géré ta force tranquille. Tu as géré tes forces impulsives, tu les as mis au service de la kedusha. Tu as aussi réussi à kedushatiser le dimion, c'est-à-dire l'imaginaire, l'odorat. Ça y est, tu es au top. Et bien maintenant, tu peux aussi sanctifier le dernier moment où le Kodesh HaKodeshim, il est ouvert devant toi. On a dit, c'est quoi le dernier truc qui fait le Kohen Gadol dedans? Il ramasse ses affaires. Ça va, c'est important d'aller ramasser ses affaires. C'est rien du tout, ramasser, c'est un truc spirituel. Il n'aurait pas pu les prendre avec lui en sortant la troisième fois? Non. Ramasser ses affaires, c'est la fonctionnalité. C'est des trucs complètement techniques, d'accord? Ça n'a rien de spirituel.
Apparemment.
Apparemment. Mais une fois que tu as compris et que tu as réussi à élever les trois premières dimensions, alors tu comprends que même les choses techniques du quotidien,
il faut les gérer.
Zekodesh. Et ça nous ramène à notre café du matin. C'est rien le petit café du matin. Oui, mais si ça, c'est ce qui va te permettre d'être éveillé.
D'arriver à l'heure au cours du rabbin.
Par exemple, alors ça devient Kodesh. Et donc c'est ça le dernier élément. Je vais rechercher les ustensiles pour amener la Kedusha également dans les petites choses du quotidien qui a priori étaient parvées, mais que maintenant je vais élever à la Kedusha.
Tu me permets de compléter.
Mais je t'en supplie. Mais attention, le monde entier te voit.
Quel rapport? Ah ouais, Non, mais pourquoi tu nous as fait ça?
Parce qu'elle ne pouvait pas enregistrer, elle a demandé qu'on enregistre. Alors.
On va sur YouTube.
Ah, attention, le monde entier te voit.
Non, ça je le savais déjà, mais quand je vois ma tronche.
Mais je peux éteindre maintenant si tu veux.
Non, ça, je sais pas, je te fais confiance. Attends, je vais vous dire pourquoi il y a eu la destruction du temple. Vous savez pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il a fait son travail le jour de Kippour, et les Juifs, ils n'ont pas compris que c'était leur rôle de faire la même chose dans le quotidien et dans leur domaine personnel. Ça veut dire qu'ils se sont reposés sur le Kohen Gadol et ils n'ont pas compris que le travail du Kohen Gadol, le Yom HaKippourim, ce sont en fin de compte quatre principes qui doivent être présents dans notre vie quotidienne tous les jours que Dieu fait. Alors quand tu te reposes sur les autres et que tu ne prends pas tes responsabilités, à la fin c'est la destruction. Vous comprenez?
Arav, j'ai une question.
Vas-y.
Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ce que vous dites là maintenant en rapport avec le fait qu'il y a plein de gens, tu sais, des jeunes, peut-être des fois des jeunes filles francophones ou autres, qui vont chez les rabbins avec des grandes barbes et qui leur disent « Arav, vous pouvez me faire une prière, vous pouvez prier pour moi, vous pouvez… » Peut-être que ce n'est pas aussi ça de se remettre uniquement à celui qui a la grande barbe plutôt que de vouloir… faire sa prière elle-même, corriger elle-même.
Très bonne question. On profite de l'occasion pour y répondre. Dieu aidera toujours une personne qui fera tout pour qu'on l'aide. Ça veut dire, si tu veux que ta prière soit exaucée, tu ne dois pas vivre dans l'illusion que c'est Dieu qui doit changer quelque chose. C'est d'abord, surtout, et avant tout, toi qui dois changer quelque chose dans ta vie, et donc à la lueur de ce changement, Dieu il va s'adapter. Je vous dis la même idée sous une autre phrase. Meshané makom, meshané
mazal.
Ça, tout le monde le sait. Maintenant, je vais vous dire comment les imbéciles y traduisent et comment il faut traduire. Meshané makom, les imbéciles disent, on va déménager. Et donc, si je déménage, ça va changer mon mazal. Mais tu vas faire aucun changement interne. Tu vas juste changer au niveau extérieur, dans le cadre. Je m'excuse de vous dire ça, mais beaucoup de gens ont l'illusion que s'ils sont en France et qu'ils sont bourrés de problèmes, quand ils vont arriver en Israël, parce qu'ils ont changé d'endroit, tout va s'arranger. Mais c'est une bêtise. Parce que quand tu vas venir en Israël, tu risques d'être d'abord confronté à tous les problèmes que tu n'as pas résolus et encore des nouveaux problèmes. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Meshané Makom. Makom, c'est un des noms de Dieu, mais caché. Tu dois changer et perfectionner ta relation avec Dieu. Si tu te concentres dans ce domaine-là, tu prends tes responsabilités et tu approfondis ta relation avec Dieu, alors forcément, tout va changer. Ça veut dire que le changement, il commencera toujours de l'extérieur ou de l'intérieur? Mais toujours de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Je vous donne encore une autre illustration et je m'arrête. Surtout que maintenant, c'est mon cours. Imaginez que les Juifs vont créer l'État d'Israël. Imaginez dans votre tête qu'il y a 75 ans, les Juifs, ils vont créer l'État d'Israël. Et imaginez que les Arabes vont tout faire pour empêcher ce projet.
Purement théorique.
C'est moi qui l'invente dans ma tête. Le vrai défi, c'est comment gérer notre relation avec les Arabes ou comment réaliser notre projet à travers la création de l'État d'Israël. Eh bien, tant que tu vas vivre dans l'illusion, je m'excuse de vous dire ça, mais ça va faire 75 ans que la gauche israélienne et beaucoup de juifs religieux vivent dans l'illusion. Que le problème, c'est les Arabes. S'il n'y avait pas d'Arabes, on serait bien tranquille, peinard. Ils veulent nous faire croire que tout commence par l'extérieur. Et moi, j'essaie de vous expliquer que ça ne commence jamais de l'extérieur. Ça commence toujours de l'intérieur. Et la réaction des Arabes envers toi, c'est la conséquence de ta relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dois d'abord, surtout, changer? Ta relation avec Dieu. Et donc, forcément, ta relation après avec les Arabes, elle va changer. Vous avez compris?
Amen.
Alors, je vous donne une image. On l'a déjà dit, mais c'est tellement important qu'on le refait. Imaginez que quelqu'un, il a une plaie. Et c'est une plaie ouverte. Et que maintenant, il y a une mouche qui va venir. Qu'est-ce que disent les imbéciles? Il faut tuer la mouche. Et qu'est-ce que disent les gens intelligents? Il faut s'occuper de la plaie. Alors, on n'est pas contre tuer les mouches.
Oh, si, mais... des fois, les mouches, elles sont gentilles.
Ouais, donc on n'est pas contre. Mais tu dois savoir que s'il y a une mouche, c'est qu'il y a une plaie. Donc, ton devoir, c'est d'abord, surtout, avant tout, de t'occuper de... Et après aussi de la mouche. Je me suis permis de compléter tes paroles.
Chazak Baruch.